Bonjour, je suis Sarah Piovesan, journaliste à l'agence de presse AEF Info. Et j'ai le plaisir de vous accueillir pour ce 40e numéro du grand oral AEF Info FNEJ, le podcast des dirigeants de l'enseignement supérieur de gestion que nous avons lancé voici bientôt 3 ans avec Jérôme Kaby, ici présent, délégué général de la FNEJ et coproducteur de ce podcast. Bonjour Jérôme.
Bonjour Sarah.
40 épisodes, ça se fête ?
Ah oui.
Vous avez prévu quelque chose, Jérôme ?
Pas encore.
Pas encore. Alors, pour souffler nos 40 bougies, nous recevons aujourd'hui un homme du Sérail qui connaît parfaitement le milieu des business schools françaises dans lequel il évolue depuis plus de 20 ans et qui dirige un groupe à la fois multimarque et multiterritoire. Cet invité, c'est Bruno Neil, directeur général du groupe Excelia, que les plus anciens d'entre nous connaissaient sous le nom de Subdeco La Rochelle. Bonjour Bruno et bienvenue dans ce grand oral.
Bonjour Sarah, bonjour Jérôme. Un plaisir et plaisir de fêter avec vous ces 40, essouffler ces 40
numéro.
Bougies.
Merci. Subdeco La Rochelle, disais-je. Ça fleure bon les 80s. Mais ça a au moins l'avantage de parler de géographie et d'histoire. Ce qu'on a un peu perdu avec ce nouveau nom un peu plus impersonnel d'Excelia, qui date de 2018. Ce qui est relativement récent, finalement. 2018, c'est aussi l'année où le groupe a fêté ses 30 ans d'existence, si je ne me trompe pas. Bruno Neil, avant d'aborder votre stratégie pour faire croître Excelia, je voudrais m'attarder quelques instants sur votre propre parcours, parce qu'il est lui aussi intéressant. Vous avez eu, en fait, une première vie avant de diriger des business schools comme patron de presse, je crois. Et vous avez même créé une école dans le domaine des médias. Alors racontez-nous un peu ce qui s'est passé dans votre vie après avoir décroché un doctorat en sciences de l'information et de la communication à Panthéon-Assas.
Écoutez, très rapidement, j'étais directeur de la publication de plusieurs magazines, photographie magazine, vente photo, très orienté sur la photo avec un concurrent qui était important à l'époque qui s'appelait Photo. Et on était installés dans le 13e arrondissement et on avait des besoins de recrutement de jeunes journalistes en presse spécialisée, presse professionnelle. Et il y avait très peu d'écoles qui formaient à ce type de presse. Elles formaient généralement à la grande presse. On connaissait l'ESJ, le CFJ et autres grandes maisons, mais il n'y avait pas d'école pour former à ce type de presse. Donc, j'ai eu cette idée de créer une école après le bac, en 3 ans, le bachelor n'existait pas à l'époque, pour former des journalistes très opérationnels dans la presse spécialisée, la presse magazine et la presse pro, la presse professionnelle.
Qu'on connaît bien, effectivement,
voilà,
ici.
Qui s'appelle ISCPA, et vous connaissez cette presse professionnelle. C'est une école qui est à l'Institut des médias, ISCPA, qui a été créée en 1990, et pour répondre à ses besoins, donc j'étais à la fois directeur de la publication et menais à bien la destinée de cette école qui appartient aujourd'hui au groupe IGS ou au groupe Ingencia. Mm-hmm. Et cette école, après l'avoir créée, je l'ai quittée quelques années après pour rester dans ce monde des médias.
Vous avez toujours un goût pour ce milieu de la presse, de l'audiovisuel ? Vous êtes encore acteur ?
Non, je ne suis plus acteur depuis peu, puisque au-delà de cette formation des journalistes et des personnalités de la communication, j'avais monté une revue avec Francis Ball qui s'appelle la Revue Européenne des Médias pendant longtemps.
Ouais.
J'étais également directeur de la publication. Et puis là, j'ai cessé il y a à peu près 8-9 ans pour laisser cette revue vivre de manière indépendante et me consacrer aux écoles de management,
voilà,
mais pas qu'aux écoles
passion.
De management. C'est ma nouvelle passion, exactement.
Donc, si je reprends le fil de la chronologie, en 2002, vous passez de ce monde de la communication à celui des business schools. Les mauvaises langues, dont nous ne sommes pas, dirait peut-être que les deux ne sont pas si éloignés que ça. Et vous prenez la tête d'une première école, l'EBS, où vous restez plus de 10 ans. Puis vous êtes chassé pour prendre la direction d'une autre école privée parisienne, l'ISC. Et c'est donc en 2017 que vous rejoignez l'école de commerce de La Rochelle, créée par la CCI locale, en 88. Et qui, déjà à l'époque de votre recrutement, n'est pas simplement une business school, puisqu'elle a déjà une école de tourisme en son sein. Comment vous décririez ce groupe, Rochelais d'origine, ses spécificités dans le paysage, parce que finalement, il semble assez à part dans sa physionomie, dans son spectre aussi.
Ah oui, parce qu'on a une ADN très territoire, même si aujourd'hui ce groupe ne dépend plus de la chambre de commerce de La Rochelle et s'est développé sur d'autres territoires. Avec le rachat de l'ESSEM en 2020, on a ces ADN de territorial, c'est-à-dire travailler pour le territoire, la dynamique du territoire et former des compétences pour l'ensemble des territoires. Donc ces racines-là, on a essayé de les reproduire sur d'autres territoires. à Tours, à Orléans, et j'ai tendance à dire à Paris-Cachan également, puisque c'est un territoire Paris-Sud, dans lequel aujourd'hui il n'y a pas d'école de management, et on a souhaité reproduire cette stratégie de territorialisation.
Alors justement, j'allais vous en parler, puisque c'est une de vos boussoles, cet aspect territorial des choses, dans le développement que vous avez impulsé. Donc, parti de La Rochelle, vous êtes implanté à Tours et Orléans, avec le rachat de l'ESSEM, vous l'avez dit. Vous avez aussi développé des activités, je crois, à Niort et à Rochefort, à une époque. Et puis, vous, bien sûr, vous êtes installé à Paris, sur une partie de l'ancien campus de l'ENS Cachan. Il n'y a pas forcément de logique dans ces territoires-là. C'est-à-dire, ce ne sont pas des territoires qui sont forcément liés entre eux. Donc, quelle est la logique que vous suivez, vous ?
Alors, logique de territoire, c'était déjà de sortir d'un étau à La Rochelle, puisque Subdeco, vous l'avez dit, Sarah, c'est 2016-2017, et quand je suis arrivé, il fallait travailler sur une marque qui soit moins ancrée sur le territoire de La Rochelle pour embrasser une logique de développement et développement de territoire. Et sortir d'un étau entre Bordeaux et Nantes, sont deux grosses agglomérations dans lesquelles il y a des belles écoles et de management en particulier. Et pour servir le développement d'Excelia en 2018, il fallait continuer cette route de la diligence qui existait depuis le Moyen-Âge, qui faisait La Rochelle jusqu'à Paris. Donc on a tracé et retracé cette route de la diligence avec des écoles, et l'ESSEM était une opportunité pour nous de récupérer, puisqu'on avait, 50% de l'ESSEM depuis la disparition de France Business School, et on a souhaité, j'ai souhaité, récupérer à 100% cette école pour la mettre sous ombrelle Excelia et continuer à se développer jusqu'à Paris, mais jusqu'au sud de Paris.
Donc l'idée, c'était de suivre But Paris et de suivre le chemin.
C'était suivre le chemin avec des agglomérations et des territoires dans lesquels il y avait peu d'écoles de management et surtout pas d'écoles de tourisme et d'hôtellerie, vous l'avez dit. Mm-hmm. Parce que Excelia, c'est également une école de tourisme et d'hôtellerie qui existe depuis plus de 20 ans, qui servait le territoire de La Rochelle et qui sert aujourd'hui le territoire de Tours et qui vient d'être installé à Paris-Cachan.
Et d'ailleurs, dans le groupe, quelle est la part de la business school et la part de l'école de tourisme en termes d'effectifs, de chiffre d'affaires, de poids ?
Alors aujourd'hui, il y a une autre école que j'ai créée en arrivant en 2017, hein, une école de communication. Voilà, pour revenir à
vos premières amours.
La vie est un cercle et à mes premiers amours. Donc il y a trois écoles. Et la part de la business school aujourd'hui, c'est à peu près 70% du chiffre d'affaires. Donc ça reste une part prépondérante du chiffre d'affaires.
Et l'école de tourisme ?
Et l'école de tourisme, c'est 800 étudiants. Elle continue à évoluer, à progresser, puisque le nouveau directeur, qui était anciennement directeur de Ferrandi, a installé un programme d'hôtellerie et a renforcé la gestion de l'hôtellerie dans le programme. Donc nous escomptons un développement à court terme de cette école.
Donc c'est quoi, c'est 20% à peu près de votre chiffre d'affaires ?
Oui, c'est à peu près ça, et 10% d'école de communication.
Okay. Est-ce qu'il faut s'attendre à court terme à d'autres implantations sur de nouveaux territoires, au-delà de Paris du coup, puisque vous y êtes arrivé, ou bien une poursuite de cette croissance externe par de nouveaux rachats ?
Oui, alors on n'est pas tout à fait arrivé à Paris, puisqu'on est à 5 km de Paris, à Cachan. Et ensuite, oui, puisque notre stratégie, c'est à la fois d'aborder d'autres territoires dans lesquels il n'y a pas d'école, soit de management, ou soit d'école de tourisme et d'hôtellerie. Donc, nous sommes en train d'étudier ces territoires. Et puis ensuite, dans le cadre de notre plan stratégique 25-30, vous avez noté que le développement pour atteindre 100 millions d'euros, il est fait en grande partie par la croissance externe. Cette croissance externe, c'est trois écoles avec lesquelles nous sommes en pourparlers, hein, une école de design, une école d'ingénieur et une école de cinéma. Voilà les trois écoles, dont une à partir de septembre 2026, si les négociations aboutissent dans le calendrier qui a été fixé.
Donc là, vos annonces, elles seront faites pour le premier achat le mois prochain, en mars.
Certainement mars-avril. Mars-avril, voilà, on va dire mars-avril.
Ça, ce sera pour l'école d'ingénierie ?
Ça sera soit pour l'école d'ingénieur, soit pour l'école de cinéma.
Ok. Et celle de design, d'ici la rentrée prochaine aussi, ou c'est plus tard ?
Je pense en septembre-octobre. Ça sera un petit peu plus tard au niveau de l'annonce.
Ok.
Alors venons-en maintenant à des enjeux externes, à l'école, qui la concerne directement, hein, puisque vous êtes un groupe au statut d'association loi 1901, triple accrédité, avec un budget d'environ 60 millions d'euros et grosso modo 6 000 étudiants, dont la moitié d'apprentis. Grosso modo également. Vous êtes donc particulièrement concerné à la fois par le projet de loi de régulation du privé qui devrait peut-être bientôt être examiné à l'Assemblée nationale, puisqu'on l'attend depuis un certain temps, et aussi par les réformes successives de l'apprentissage qui se traduisent en particulier par une baisse substantielle des subventions publiques. Alors une première question sur le sujet, quelle lecture faites-vous de ce qui est en train de se passer actuellement sur ce marché de l'enseignement supérieur privé ? Pourquoi ce besoin de régulation se fait-il sentir maintenant et aussi fortement ? Comment pensez-vous que cela va se traduire en termes de restructuration éventuelle du secteur, en particulier si l'argent qui coulait à flot venait à se tarir, en tout cas à se réduire dans le futur ? Ça fait beaucoup de questions en une, je sais.
Je vais essayer de la réunir en une réponse. Tout d'abord, merci de rappeler qu'on est un établissement associatif ESPIG, puisque l'objet, c'est d'installer un groupe ESPIG associatif avec des écoles associatives. C'est vraiment une stratégie... pour nous, d'implantation à l'encontre, qui va à l'encontre du lucratif. Donc, on se place dans le privé non lucratif. Et aujourd'hui, le débat, vous avez raison de pointer ce débat, c'est le lucratif contre le non lucratif. Alors, moi, je ne rentre pas dans ce type de débat, parce que l'enseignement supérieur privé est l'enseignement supérieur privé qu'il faut défendre. Mais dans le lucratif, il y a eu ce développement d'un nombre d'écoles importantes aujourd'hui, que certains qualifient d'officines, qui ont profité de fonds publics et de l'apprentissage pour se développer et qui ont pris des parts de marché à nos écoles, qu'elles soient lucratives de qualité, gradées, en contrat avec l'État, évaluées par l'HERS, comme des écoles comme les nôtres, non lucratives, également évaluées par l'HERS. Donc je fais vraiment la séparation entre les écoles privées, qu'elles soient lucratives ou non lucratives, qui portent une qualité de l'excellence académique et peut-être quelques officines qui sont aujourd'hui sous le regard de l'État et qui font que l'État et le ministère ont mis en place un projet de proposition de loi qui est passé hier au Sénat, je crois, porté sur l'encadrement des pratiques commerciales et un autre projet de loi porté par Philippe Baptiste, que nous attendons, qui doit être porté devant l'Assemblée.
Oui, je me permets d'intervenir parce que ce concept de lucrativité, si j'ai bien compris, il est quand même assez flou, vague et pas très très bien défini.
Exactement. C'est pour ça que je fais bien la séparation. Je ne veux pas faire une séparation entre le lucratif et le non lucratif, puisqu'il y a des écoles à but lucratif qui font un travail, un excellent travail, et qui sont engagées dans l'excellence académique. Voyez. Donc c'est pour ça que le débat, je le suis avec intérêt, même si on est dans le non lucratif et placé dans la catégorie 1 en contrat avec l'État, tout comme les universités. Pour nous, c'est un véritable avantage. Mais je reste quand même un défenseur de l'enseignement supérieur privé. Et dans l'enseignement supérieur privé, il y a du lucratif qu'il faut définir, parce qu'il y a du lucratif qui est complètement engagé dans l'excellence académique qu'il faut défendre.
Et là, en termes de conséquences, comment vous voyez les choses ? C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer ?
Ce qui va se passer, comme il s'est passé dans la fin des années 90, parce que l'enseignement supérieur est également un marché qui s'autorégule, il va y avoir des restructurations, il va y avoir des fusions, notamment d'écoles qui sont monoproduits, je pense aux écoles de management. Nous, on est épargnés par ce type de fusion de recherche de taille critique, parce que je crois que beaucoup d'écoles qui sont monoproduits sont à la recherche d'une taille critique, qu'ils estiment entre 8000 et 10000 étudiants.
Vous aussi, vous nous avez dit que vous étiez à la recherche d'une taille critique à 8000 étudiants. Vous l'avez dit dans votre plan stratégique.
Oui, exactement. On l'a dit dans notre plan stratégique, mais dans une optique de croissance extérieure et non pas de fusion d'écoles, puisqu'on est, encore une fois, on n'est pas monoproduit. Et le danger aujourd'hui, c'est d'être monoproduit, mais pas que pour les écoles de management. On voit que c'est la même chose pour les écoles d'ingénieurs qui recherchent une taille critique. En moyenne, des écoles qui sont entre 1000 et 1500 étudiants et qui n'ont pas la taille critique en école d'ingénieurs aujourd'hui pour survivre. Donc, il y aura une restructuration du marché, comme moi, personnellement, je l'ai connu à la fin des années 90.
Et alors, l'apprentissage, les conséquences de la réforme de l'apprentissage et sur Excellia en particulier ?
Alors, l'apprentissage, il va y avoir, avec la loi, à mon avis, une baisse de ces financements qui vont accélérer peut-être la disparition de certaines écoles qui également sont à vendre. Beaucoup d'écoles sont à vendre ou sont en dépôt de bilan. Vous connaissez la liste de ces écoles. Pour nous, l'impact est minime parce que l'apprentissage est beaucoup porté par l'école de tourisme et d'hôtellerie aujourd'hui et on a toujours développé l'apprentissage dans l'école d'hôtellerie. Nous avons toujours autant d'offres d'apprentissage.
Donc vous allez le maintenir, vos 2500 à peu près apprentis ?
Nous allons maintenir les 2500. En tout cas, cette année, nous les maintenons, puisque cette année, nous avons exactement les mêmes offres d'apprentissage de la part des entreprises que l'année précédente.
Et le rendement financier reste le même pour vous avec le reste à charge et...
Alors, il y a une baisse à peu près de 4% du rendement financier, qui est ce qu'on appelle le reste à charge. Mais nous arrivons à maintenir en fait, ce reste à charge.
On entend beaucoup parler de fraude, oui. D'abus et de fraude. Oui. Carrément, aujourd'hui d'ailleurs, on attend des annonces des ministres du Travail et de l'Enseignement supérieur sur cette question. Donc, vous l'avez dit, des écoles opportunistes qui se sont montées dans le seul but de capter des financements publics de l'apprentissage. Et en même temps, cette politique favorable à l'apprentissage, favorable à la formation et à l'emploi des jeunes est quand même régulièrement saluée comme un des succès des mandats d'Emmanuel Macron. Vous, à Excelia, comment est-ce que vous avez vécu cette période? Quel bilan vous en tirez si vous prenez un peu de recul sur ces 5-7 dernières années? Et est-ce que ça a transformé de manière pérenne votre business model?
Alors, ça n'a pas transformé notre business model, parce qu'on a toujours fait de l'apprentissage. On a développé, évidemment, l'apprentissage au niveau de la business school en particulier. Mais ça nous a permis de répartir davantage les programmes entre les MSI orientés davantage sur l'apprentissage que le programme grande école, davantage généraliste et sur des parcours classiques avec de l'internationalisation au niveau des programmes. Mais l'apprentissage a été un levier social, un ascenseur social pour un grand nombre d'étudiants. C'est pour ça que ça a été salué, qu'on a accompagné ce dispositif d'apprentissage depuis les 5 dernières années pour permettre à un certain nombre d'étudiants, surtout sur nos territoires, hein, parce qu'encore une fois, on est bien installé dans nos territoires hors parisiens, et que ça nous a permis d'accompagner un grand nombre d'étudiants vers l'enseignement supérieur.
Ok, donc vous y croyez, vous le maintenez, mais ça n'a pas fondamentalement changé votre business
model. Non, ça n'a pas changé notre business model. Nous y croyons et on y croit également pour l'entreprise, puisque dans les territoires, on est un acteur d'accompagnement des entreprises et l'apprentissage est un levier de formation à la compétence et d'accompagnement de nos entreprises de territoire. Donc pour nous, l'apprentissage est un élément essentiel pour valoriser l'ensemble des territoires.
Même s'il est moins aidé dans l'avenir.
Même s'il est moins aidé dans l'avenir, absolument.
Un mot sur votre programme Grande École et sur votre stratégie de recrutement. Vous avez annoncé récemment que vous rejoigniez le concours Accès, donc aux côtés de l'IESSEG, l'ESDES et l'ESCA. Déjà, pourquoi ce choix? Et deuxième question en une, vous, Excelia Business School, souffre depuis longtemps sur le marché des prépas. Vous en avez affecté 36 en 2025, c'était 63 en 2024. Est-ce que pour vous, le marché des CPGE est mort?
Il y a deux questions, Sarah. La première,
oui.
Pourquoi on est rentré dans Access? Il y a 4 ans, notre PGE est passé en 5 ans post-bac. Donc, il nous fallait rejoindre une banque d'épreuves, une banque de concours pour donner de la visibilité aux familles. Et Access est une belle banque d'épreuves que nous avons rejoint et fiers de l'avoir rejoint puisque c'est historique. Ça fait 27 ans que Access n'avait pas rentré une nouvelle école. Donc, on est fiers de rentrer à Access et avec Access et les écoles d'Access, pouvoir défendre le modèle 5 ans après bac et pas seulement le modèle bachelor ou les autres modèles qui peuvent exister ou BBA qui existe, mais identifié qu'il y a un beau programme en 5 ans.
Concours Access, qui était d'ailleurs plutôt, enfin, culturellement, qui réunit des écoles liées à des universités catholiques.
Oui, oui, c'était l'origine.
Vous avez quelque chose à annoncer en la matière?
Non, non, nous avons une gouvernance indépendante, nous ne sommes pas liés à un recteur ou à un doyen d'université catholique, donc nous restons indépendants et laïcs. Mais nous venons également de rejoindre la FESIC, et la FESIC n'est plus une fédération d'établissements d'enseignement catholique. Donc non, on rejoint des écoles de qualité pour défendre un modèle de qualité.
Très bien. Et sur les prépas?
Et sur les prépas, c'était votre deuxième question. Donc nous avons, comme vous l'avez vu, un modèle hybride. Nous recrutons cette année des prépas. Le marché prépa, vous le connaissez, il a perdu 12% en 5 ans de candidats. On constate des étudiants, une augmentation d'étudiants qui cubent, voire qui démissionnent. Mm-hmm. On est passé à peu près de 300 à 450 étudiants. C'est pas neutre qui cube. Pour un marché, en fait, pour les 10 premières écoles, pour le top 10. Hein, donc on voit bien qu'il y a des écoles qui n'ont pas rempli, qui remplissaient l'année d'avant, et je ne les nommerai pas, et deux écoles en particulier, de très belles écoles, qui n'ont pas rempli cette année. D'autres ne vont pas remplir, je pense, cette année. Et l'avenir, je pense que cet avenir, ça va être des prépas pour un top 5. Donc est-ce que l'État va continuer à financer un marché pour les prépas, pour le top 5, voire pour le top 10 aujourd'hui?
Vous n'y croyez pas?
J'ai pas dit ça.
Non, c'est une question.
J'ai pas
formulée
dit ça.
Sous forme d'affirmation. Mais...
Non, j'ai pas dit ça. Je partage un constat avec vous,
alors,
mais qui est un constat que bon nombre partagent.
Tout à fait. Alors,
dont la présidente du CIGEM.
Ça nous amène quand même à une question de fond, qui est que si ces écoles de commerce françaises perdent petit à petit ce qui fait le socle de leur excellence, c'est-à-dire les étudiants de prépa, quand même, c'est un peu autour de ça qu'elles se sont construites, et donc aussi de la valeur aux yeux des familles, aux yeux des recruteurs, est-ce qu'elles arriveront à rester à long terme des objets enviables, attractifs, surtout dans une période de disette démographique qui s'annonce?
Mais est-ce à dire que nos écoles de PGE en 5 ans ce ne sont pas un socle d'excellence?
C'est la question. Est-ce qu'on peut faire de l'excellence quand on se prive ou quand on est privé du cœur du recteur?
Le cœur du recteur prépa?
Oui.
Et les deux premières années d'un PGE 5 ans n'est pas un cœur de réacteur d'excellence?
Posez la question aux familles, aux recruteurs. Moi, je me fais un peu le porte-voix, mais c'est une vraie question de fond.
Quand vous voyez que les écoles PGE 5 ans sont classées dans les meilleurs classements du FTI à l'international, vous pouvez vous poser la question du déplacement, également du socle de qualité. Où est le socle de qualité?
C'est pas du tout la majeure partie. Les écoles qui sont classées dans le FTI sont plutôt des écoles post-prépa.
Mais vous savez, des belles écoles post-bac.
Sur cette histoire, cette culture.
Comme YSEG ou l'ESCA, ou voire l'Excelia, qui est aujourd'hui bien classé dans le FTI.
Alors justement, on parlait de disette démographique et on annonce souvent que pour faire face à cette disette démographique et donc à une baisse de sélectivité, qui est aussi un peu le sujet précédent, l'international est une voie de rebond, de sortie. Et vous avez notamment annoncé vouloir augmenter le nombre d'étudiants étrangers de 1900 à 2400 d'ici 2030 et peut-être d'ouvrir un campus à l'étranger. Alors par rapport à ce que vous nous disiez sur les territoires, ça paraît un peu différent en termes d'orientation, puisque là c'est plus chemin vers Paris, à moins que vous alliez jusqu'à Roissy, mais de se dire comment ça rentre dans la logique de territorialisation d'avoir l'ouverture de campus à l'étranger.
Je vous l'avais dit Jérôme, on se rapproche d'Orly, pas de Roissy, d'Orly. L'international est un territoire pour nous et il est inscrit dans le plan stratégique comme un territoire. Et dans ce territoire, et large territoire, il nous faut identifier des zones dans lesquelles on souhaite à la fois recruter des étudiants, voire installer de nouveaux programmes. Donc c'est pas un relais de croissance pour un relais de croissance que toutes les écoles vont aujourd'hui sur l'international et on connaît le contexte international aujourd'hui, donc je crois plus dans les années à venir que ce soit un relais de croissance, mais en tout cas c'est un relais qui nous permet nous de développer notre image Excelia en partenariat avec des universités de qualité et aujourd'hui nous avons identifié en fait deux pays et deux villes en particulier pour pouvoir installer, délocaliser nos programmes en accord et dans le cadre de campus associés avec un ou plusieurs de nos partenaires.
Et quelle région ou ville
La région, c'est la Chine aujourd'hui, puisqu'on a déjà un bureau en Chine. Vous savez que nous avons des desks, on appelle ça des bureaux, des salariés Excelia à l'étranger, en Chine en particulier depuis très longtemps, depuis plus de 15 ans. Et à Pékin, nous sommes en train d'installer un campus associé.
Et le deuxième pays
Et le deuxième pays, c'est les États-Unis et le Texas en particulier.
C'est contre-intuitif en ce moment.
C'est très contre-intuitif. Et c'est pour ça que c'est parce que c'est contre-intuitif que nous allons vers les Américains pour démontrer l'excellence des écoles françaises.
Très bien, vous reviendrez nous en parler quand vous y serez. Cher Bruno Nel, nous arrivons à la fin de cet entretien, mais il nous reste une dernière question à vous poser. C'est le conseil de lecture que vous auriez envie de donner à nos auditeurs, et pourquoi?
Le conseil, c'est, on est le 19 février aujourd'hui, on peut fêter les 10 ans du décès d'Umberto Eco, donc je vous invite à lire ses œuvres sur le symbolisme, les signes et tout ce qu'il a produit et écrit.
Vous êtes passionné par cette thématique?
Non, mais c'est son décès, c'est ses 10 ans, donc comme on a fêté vos 40, vos 40 numéros, donc je fais un hommage à Umberto Eco aujourd'hui.
Vous avez un titre préféré?
Le nom de la rose, par exemple, ou le pendule de Foucault.
Très bien, merci beaucoup Bruno Nel, directeur général du groupe Excelia, d'avoir passé ce moment en notre compagnie au Studio Module. Merci aussi à vous, Jérôme Cabi. Quant à vous, chers auditeurs, nous vous donnons bien sûr rendez-vous le mois prochain avec un nouvel invité. Et d'ici là, portez-vous bien.